Libre radio noctambule, au devers du tintement des lucioles, sous le bruissement des feuillages, se dissimule brasier, tumulte et sédition. Libre radio, le message derrière le message, derrière le message. www.libradio.org.
Nous voici à la journée de clôture du festival L'Arcade est à vous. Ça se trouve en plein cœur des grottes et nous sommes ravis pour le deuxième jour d'y faire de la radio. Nous accueillons Fred. Pierre est également parmi nous comme chroniqueur. Et puis Fred, tu es parmi nous parce que nous allons parler non pas d'un festival, mais d'un cycle de projection de 4 films autour d'images de grève. Ça s'appelle Images de grève. Alors, avant que l'on te questionne là autour et que tu te présentes à l'aune de ce cycle, on va immédiatement dire le site internet, c'est www.images-grève.ch. Je le répète, www.images-grève.ch. Images de grève 1969-1979, un cycle de projection du 17 septembre au 3 octobre 2019, donc c'est dans 2 semaines. Alors, pourquoi les grèves, alors qu'en Suisse, elles sont relativement rares?
Oui, elles sont rares, en effet. Ce qui a motivé le fait qu'on a imaginé ce cycle, c'est le film de Véronique Rotelli qui s'appelle « Un mois de grève au pays de la paix du travail » et qui revient selon un dispositif qui avait déjà été expérimenté par Hervé Leroux dans un film qui s'appelle « Reprise » sur la grève aux usines Dubié. À Marins, Couvet et Peseux en 76. Et donc Véronique Rotelli, le film est sorti maintenant, je ne sais plus, il y a 3 ans, je crois, 2016 peut-être bien, est allée revoir des grévistes, donc des gens qui avaient participé à cette grève à Dubié, et elle leur a montré des images d'un film qui avait été tourné à l'époque, Éléments de grève, Parlons, la machine est arrêtée, de Frédéric Godet. Et elle leur a demandé de réagir à la vision de ces images. Et elle a filmé les réactions de ces anciens grévistes. Et de mon côté, je trouvais que ce film avait connu une diffusion assez faible en Suisse romande, alors que effectivement, les grèves sont rares. Le cycle de grève, pour le coup, pas le cycle de film, qui s'est déroulé entre 69 et 79, est relativement méconnu. Du grand public, disons, on connaît peut-être les grèves dans la métallurgie à Genève, on connaît peut-être justement la grève à Dubié qui avait eu un certain retentissement à l'époque, mais la conscience que finalement il y a eu sur cette décennie là un cycle au sens où il y a une certaine cohérence et un certain volume en termes statistiques de conflits du travail, cette chose-là est peut-être moins connue. Et du coup, ça nous a semblé intéressant à la fois de montrer le film de Véronique Rotelli et également de montrer 3 autres films qui documentent du point de vue cinématographique cette décennie gréviste en Suisse.
Alors, il se trouve que les projections seront suivies par des discussions et des rencontres.
Oui, tout à fait. Donc, la première projection qui a lieu le 17 septembre, j'essaie de ne pas me tromper.
Effectivement, 17 septembre à 19h.
17 septembre à 19h, elle a lieu à Fonction Cinéma, au Grütli. Et elle est organisée avec Métro Boulot Kino, que sans doute vous connaissez.
Oui.
Et il s'agit d'un film tessinois qui revient sur la grève des apprentis au centre professionnel de Trevano, au Tessin, donc. Ça aussi, c'est une grève assez méconnue. Donc, c'est une grève de jeunes gens, quoi, d'apprentis. Et effectivement, la projection sera suivie d'une rencontre avec 2 anciens apprentis, qui ne sont plus tout à fait des jeunes gens aujourd'hui, dont l'un a participé au mouvement tessinois à Trevano et l'autre a participé au mouvement d'apprentis ici à Genève.
Mmh.
Ensuite, la deuxième projection, donc le 24 septembre, qui elle aura lieu en plein air, sur le site de la CIP des Charmilles, donc la zone industrielle des Charmilles, au 43 avenue de Châtelaine. Eh bien, cette projection, elle sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur du film, qui est Mathias Knauer, enfin un des réalisateurs du film, Mathias Knauer. Le film étant Ein Streik ist kein Sonntagsschule. Et ce film revient sur une grève à Bienne dans une fabrique de piano qui s'appelait Burger et Jacobi. Et donc là, on aura la chance d'avoir un des trois réalisateurs, Mathias Knauer, qui a donc co-réalisé ce film en 76, sauf erreur, avec Hans et Nina Sturm. Ce sera aussi une projection un peu particulière, puisqu'en première partie, avant le film Ein Streik, on aura la projection de trois courts films qui s'appellent Défendre la zone, que vous pouvez voir en primeur sur Vimeo. Si vous cherchez Défendre la zone, vous devriez les trouver, et qui parle de la tentative de gentrification, disons, pour dire les choses rapidement, de cette zone industrielle des Charmilles, qui se trouve être des bâtiments qui ont été mêlés à cette décennie gréviste, puisque c'est les bâtiments de la société, les anciens bâtiments de la Société Genevoise d'Instruments de Physique. Qui a été un des lieux des grèves dans la métallurgie genevoise au début des années 70. Donc voilà, on aura donc Mathias Knauer pour discuter avec nous, et des membres de l'association des locataires de la zone industrielle des Charmilles qui discuteront également de ces trois films. Et puis les deux dernières projections, eh bien ce sera donc les films liés à Dubier. Le film original de 76, donc Éléments de grève, Parlons, la machine est arrêtée, de Frédéric Godet. Et là aussi, on aura la grande chance d'avoir Frédéric Godet, le réalisateur, qui viendra parler des conditions dans lesquelles il a tourné, de pourquoi il a tourné ce film, quelles ont été ses motivations. Et puis le lendemain, on aura donc le film de Véronique Rotelli, le dernier en date. Et là, on recevra des anciens grévistes de Dubier qui viendront parler du film et parler de la grève, quoi.
C'est alléchant tout ça, avec ces rencontres et ces films rares, effectivement, qui sont quasiment des morceaux d'archives, pourrait-on dire.
Ah oui, le film Éléments de grève, La machine est arrêtée, il a été numérisé dans le cadre de la réalisation du film de Véronique Rotelli, mais autrement, le film Ein Streik, ist kein Sonntagsschule, de Knauer et Sturm, il sort de la Cinémathèque de façon un peu exceptionnelle, disons c'est une copie en 16 mm, il n'y a pas de copie numérisée. Et puis le film E noi altri apprendisti, donc sur le centre de Trevano Tessin, c'est aussi un film très rare, quoi, qui a été projeté, il a été relativement peu projeté à l'époque, il est passé une fois à la télévision dans les années 70, et puis depuis, on peut le voir en ligne, il est en ligne, mais disons sur grand écran, c'est vraiment rare.
Les entrées sont à prix libre.
Les entrées sont prix libre, oui.
Et puis on va rappeler le site www.image-grève-grève.ch. Les photos qui sont présentes sur le site sont d'Interphoto. On aime bien les citer parce qu'on les a interviewées. Et Interphoto, ça n'est pas neutre. Voudrais-tu en dire quelques mots ?
Eh ben, Interphoto, oui, c'est vrai que le cycle s'appelle Images de grève et ça ne dit pas que les images doivent être absolument en mouvement. Et donc, effectivement, Interphoto, ben, c'est un collectif genevois de photographes qui a été très actif dans cette décennie, mais plus loin que cette décennie 60-70. Enfin, ils ont commencé au milieu des années 60. Des années 70, pardon.
Comment ça va, les grottes, aujourd'hui ?
Mais ça va bien.
T'inquiète pas, nous concentrons-nous sur notre petite affaire.
Et donc, ils ont fait leur travail de photographe. Photographe de presse, sauf que c'est un travail qu'ils ne faisaient pas professionnellement, donc c'est un travail qu'ils faisaient à côté de leur métier. Ils n'ont jamais été rémunérés pour ce travail qu'ils faisaient, ils ne se sont jamais rémunérés pour ça. Et c'est un collectif très intéressant, parce que c'est un collectif qui existe toujours aujourd'hui à peu près dans sa formation d'origine.
Ouais, absolument.
Et ce sont des gens tout à fait sympathiques qui effectivement nous ont proposé de nous offrir un certain nombre de photos de grève qu'ils ont réalisé à l'époque.
Alors, on parle de grève, bien entendu. Alors, qui fait la grève, au bout du compte, hein, et pourquoi est-ce qu'on fait la grève ?
Alors, entre 69 et 79, on traverse deux configurations économiques particulières. Jusque en 74-76, on est dans une phase qu'on peut appeler la surchauffe. enfin qu'on appelle à l'époque la surchauffe. C'est-à-dire qu'il y a un énorme saut infrastructurel. On construit y a des chantiers d'autoroutes, des chantiers de barrages gigantesques, des chantiers de canalisation. Beaucoup, hein, tout le réseau d'eau usée moderne, le réseau d'évacuation des eaux pluviales moderne, etc., date de cette époque. Et donc, oui, il y a tout cet effort de modernisation des infrastructures qui se fait et qui donc provoque une période de très très haute conjoncture. Et puis, cette tendance se brise à peu près autour du premier choc pétrolier. Et on passe alors dans un régime de crise qui est grosso modo celui qu'on connaît depuis ce moment-là, c'est-à-dire disons on peut essayer de voir des fluctuations, mais disons que ça ressemble beaucoup à la situation qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et donc néanmoins on a l'impression que sur cette décennie on a un cycle de grève qui est consistant. Même si évidemment à partir de l'entrée dans le régime de crise, on est plutôt dans l'ordre de grève qui vise à défendre les places de travail, à défendre l'ouverture des usines contre la fermeture des usines. On a l'impression quand même qu'il y a une cohérence entre ces grèves, et cette cohérence, elle se lie à notre avis dans le fait que ce sont des grèves qui se déroulent en dehors du cadre syndical. C'est-à-dire que, on le sait, la Suisse vit sous un régime dit de la paix du travail. Et ce régime de la paix du travail, qui est un peu para-juridique, contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui empêche la grève, au contraire, la grève est un droit constitutionnel. C'est un régime para-juridique dans le sens où il s'agit de contrats qui sont passés entre les associations patronales et les syndicats de travailleurs. Eh bien, dans ce cadre de régime de la paix du travail, on a un mouvement social très très atone, quoi. Les syndicats empêchent le développement de mouvements à la base. Et à partir de 68-69, suite au mouvement social qui se déroule dans ces années-là, il y a une contestation très forte de la part d'une jeunesse dont une partie est membre du Parti du Travail, et qui ne comprend plus la représentation ouvrière classique, Parti du Travail, syndicat, comme une représentation ouvrière légitime, qui conteste la légitimité de cette représentation ouvrière, et qui va dire « Nous estimons que vous défendez mal les ouvriers, vous devriez rompre avec ce régime de la paix du travail ». En 68, il y a des étudiants qui se promènent dans les manifestations, ici à Genève, avec des pancartes qui disent « Guerre à la paix du travail ». C'est un mot d'ordre, quoi. Mais c'est un mot d'ordre qui, évidemment, à ce stade, ne rencontre rien de concret. C'est-à-dire qu'ils disent « guerre à la paix du travail »,« arrêtons avec la paix du travail », ce sont des déclarations théoriques. Mmh. Et puis, à partir de 71, ici à Genève et parallèlement au Tessin, on assiste à des mouvements de grève sauvages, c'est-à-dire en dehors du cadre syndical. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est des gens qui sont au travail et qui décident d'arrêter. Une des premières grèves, c'est la grève à la Murère, ici à Genève. Il s'agit d'ouvriers saisonniers, en grande partie espagnols, qui entendent protester par leur arrêt de travail, notamment contre leurs conditions de logement. C'est-à-dire qu'ils sont donc on est dans cette phase de surchauffe. Il y a énormément de la Suisse importe énormément de main d'œuvre, donc il y a énormément d'ouvriers, notamment saisonniers, qui viennent travailler en Suisse depuis l'Espagne, l'Italie, etc. Et les entreprises ont beaucoup de mal à gérer cet afflux dans le quotidien logistique, quoi. Ils ont notamment beaucoup de mal à loger ces gens, alors qu'ils ont l'obligation de les loger de par leur statut particulier. Mmh. Et donc, des ouvriers de cette boîte, Murer, qui est une boîte de bâtiments en travaux publics, quoi, se retrouvent à être logés dans des halls de gare, dans des endroits pas très sympathiques. Et ils estiment que c'est une atteinte à leur dignité. Et leur réaction un tout petit peu spontanée est de se mettre en grève. Et donc, ils se mettent en grève. Et ça produit une espèce de chaos. C'est une grève qui ne va pas durer très longtemps. Elle dure moins d'une semaine. Mais ça produit une espèce de chaos au niveau syndical, puisque personne n'est prêt au surgissement, au resurgissement de cette forme gréviste, quoi, qui avait pour ainsi dire, disparu. Quoi. On a des, dans les années 50, début 60, des mouvements de grève, mais qui sont très encadrés, qui sont dans le cadre du renouvellement des conventions collectives. Hop, on sort, on fait un cortège, on fait peut-être une journée de grève, deux jours de grève. Mais c'est vraiment un jeu très codifié. Quoi. Et là, tout d'un coup, paf, ça surgit. Et donc la FOBB, à l'époque, se sent mise en cause et attaquée, parce qu'elle est d'une part attaquée par ces gens qui l'attaquent théoriquement, ces étudiants qui l'attaquent théoriquement, en disant « guerre à la paix du travail ». Et tout d'un coup, elle voit comme la matérialisation de ce slogan dans le fait qu'en effet, des ouvriers se mettent en grève sans lui demander. Alors, dans le cas Genevois, pas forcément s'étendre sur les particularités locales, mais disons, il y a pendant tout un temps de cette décennie une réaction syndicale très forte qui est, comment dire, qui est très négative vis-à-vis de ces mouvements grévistes. Quoi. Néanmoins, ces mouvements s'intensifient, s'allongent et vont parfois aller jusqu'à l'occupation. Donc ici à Genève, on a en tout cas deux cas d'occupation d'usines qui sont Sarcem à Mérin, qui était une boîte de micromécanique pour l'aéronautique, et Technicaire, qui était aussi une boîte qui travaillait pour l'aéronautique, où les locaux vont être occupés. Alors Sarcem, c'est plus caractéristique de la deuxième partie du cycle, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de crise, la boîte va fermer, elle est en faillite, et les ouvriers occupent pour empêcher la saisie des machines. Quoi. Donc ça ressemble plutôt, disons, à la deuxième partie du cycle qui est marquée par la crise économique.
On sait qu'il y a différentes manières de faire la grève, il y a différents types de grèves. Peut-on dire qu'il y a également une tradition à Genève ? Tu as parlé de la FOBB, on pourrait parler de la Ligue d'Action du Bâtiment également. Il y a des images, des figures tutélaires. On pourrait parler d'André Beuziger également, qui à un moment donné était, pour ainsi dire, des agitateurs finalement locaux. Peut-on dire qu'il y a différentes formes de grèves qui vont de la grève perlée jusqu'à des situations où tu parles d'occupation, ou vraiment des situations où il y a un affrontement pur et dur ?
Oui, évidemment, quand on parle de grève, on parle de la pointe émergée de l'iceberg. Et on pourrait parler de grève et contestation ouvrière, c'est-à-dire qu'avant la grève, il y a tout un développement d'actes de beaucoup plus petite ampleur sur le plan spectaculaire, comme soit des arrêts de travail de très courte durée, on prolonge une pause d'un quart d'heure, etc., soit des choses beaucoup plus simplement de se réunir, de tenir une assemblée générale sur le lieu de travail, par exemple, ça peut déjà entrer dans des formes de contestation ouvrière, jusqu'à même des formes de contestation plus individuelles peut-être, comme de sortir du matériel ou de multiplier les arrêts maladie, etc. Bon, ça c'est des choses qui conviendraient d'étudier, qui évidemment ne font pas l'objet de films parce qu'il y a un caractère moins spectaculaire que l'arrêt de travail proprement dit, quoi. C'est sûr que l'arrêt de travail, on le voit dans ces films, il détermine tout un récit spectaculaire avec l'usine qui est vide, avec les machines qui sont arrêtées, avec les gens qui sont devant l'usine, qui sont massés, qui sont assemblés, etc. Maintenant, donc ce que tu évoques, la Ligue d'Action du Bâtiment et Beuziger, par exemple, le rôle syndical, si on veut, a été profondément modifié par la Deuxième Guerre mondiale et les années 50. Un homme, par exemple, comme Lucien Tronchet, qu'on qualifie dans les années 30 de gréviculteur, au même titre que Louis Bertoni, du Réveil anarchiste. Tronchet verse dans une forme d'anticommunisme très obsessionnel, disons. Il a une sorte de vision anticommuniste très dure. Qui va finalement le faire adhérer, comme par contraste, comme par un effet de balancier, à la social-démocratie la plus, je dirais, souple, et notamment qui va conduire à des recrutements au niveau des secrets. Donc à cause de sa figure historique, une influence très importante dans la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment, et ça va conduire à des recrutements assez hasardeux, je dirais, de secrétaires syndicaux, notamment. Deux d'entre eux qui s'illustreront pour leur déclaration raciste dans le cadre des initiatives Schwarzenbach, quoi. Ouais. Donc qui vont très mal prendre, notamment le mouvement à Murer, l'un d'eux dira que bon, en gros, c'est une grève de sauvages, quoi.
Peut-on dire qu'il y a un triangle qui serait la grève, les ouvriers, le gauchisme? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pertinent?
Oui, c'est pertinent. Ça mérite de poser plein de questions. C'est souvent analysé comme soit comme un échec, c'est-à-dire les gauchistes ont beaucoup parlé de soutenir les ouvriers, nanana, mais ils n'ont jamais rien fait. Soit comme une espèce de vision romantique d'une jonction, etc. En fait, c'est probablement ni l'un ni l'autre. Ce qui est sûr, c'est que l'échec qui a été mis en avant beaucoup dans l'historiographie classique, je pense qu'il est, c'est faux, c'est très exagéré. Moi, je trouve que dans le cas de la décennie 69-79, on a quand même des vraies jonctions. Évidemment, chacun défend ses intérêts. C'est-à-dire qu'évidemment, dans le cas, par exemple, de Burger et Jacobi, dont on présente le film Ein Streich ist keine Sonntagsschule, c'est une grève qui a été beaucoup soutenue par la LMR, la Ligue marxiste révolutionnaire, donc les trotskistes. Mais en réalité, c'est sûr que chacun court, enfin disons, j'allais dire prêche pour sa paroisse, mais chacun court après ses intérêts, c'est sûr. Mais il n'empêche que ces mouvements gauchistes ont été vraiment nécessaires pour que les grèves sortent du cadre de l'usine. Parce que c'est un effet du régime de paix du travail qui fait que finalement, le conflit du travail, c'est comme s'il ne concernait que l'espace du travail, c'est-à-dire c'est un conflit qui doit être réglé entre le patron, la commission ouvrière et les ouvriers, et encore les ouvriers peut-être marginalement, quoi. C'est un peu le patron, la commission ouvrière et derrière la commission ouvrière le syndicat, mais ça doit surtout pas sortir de l'usine, personne ne veut que ça sorte de l'usine. Et là, une des caractéristiques de ce mouvement, c'est que les grèves sortent de l'usine, elles vont sur le terrain social, c'est-à-dire ça va dans la rue, il y a des manifestations, il y a des soirées de soutien, des soirées, comme on dit à l'époque, de popularisation, c'est-à-dire qu'on organise, soirée de soutien à la grève de la SARSEM, à la salle du Faubourg, on projette un film, on a des discussions. Il y a un aspect qui est de fournir les fonds de grève, c'est clair, de ramasser de l'argent, ça c'est sûr, mais il y a un aspect aussi de sortir le conflit du travail de l'espace fermé du travail. Donc de ce point de vue-là, je pense que les groupes gauchistes, on peut leur faire beaucoup de reproches, notamment d'avoir été extrêmement dogmatiques pour un certain nombre d'entre eux, de ne pas avoir su analyser en dehors des catégories que leur proposait le marxiste-léninisme, par exemple, qui donne lieu à un discours très stéréotypé, pas très intéressant. Mais ils ont contribué très fortement à faire sortir les conflits du travail, du lieu de travail, et je pense que ça a été un gain à ce moment-là.
D'accord. Quel rôle les étudiants de tout temps? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont une composante justement pour révéler d'une certaine manière, propager ces idées de grève et donner lieu à du soutien transversal, à des soutiens transversaux?
Ils sont une composante parce que c'est eux qui vont constituer les groupes gauchistes. C'est-à-dire que on a autour du milieu des années 60 des gens qui, convaincus par les idées communistes, vont adhérer au Parti du Travail, ce qui est la logique même, mais qui vont très rapidement se sentir très à l'étroit par rapport très à l'étroit, donc à l'intérieur du Parti du Travail, par rapport à l'ampleur des revendications sociales qui sont développées par le mouvement de mai 68 notamment. Et donc ils vont porter la contestation jusqu'à la rupture, pour certains, pas pour tous, il y en a qui vont rester, mais une grosse part d'entre eux vont porter la contestation jusqu'à la rupture, qui va se manifester soit par des exclusions, donc le Parti du Travail va dire vous... ficher le camp, soit par des démissions, c'est-à-dire que les gens vont dire ça suffit, je ne reste pas. Et donc c'est sur cette base-là que les groupements gauchistes, que les groupes gauchistes à ce moment-là vont se constituer. Ce sont ces gens-là qui constituent le squelette de départ des groupes gauchistes qui vont ensuite voir comme une confirmation dans ces grèves sauvages de la théorie qu'il propose, qui est que le souffle révolutionnaire se trouvera en dehors du régime de paix du travail et des propositions syndicales et du Parti du Travail.
Alors, comme tu l'as dit, on sait qu'il y avait des composantes marxistes, des tendances trotskistes. Est-ce que l'anarcho-syndicalisme s'est révélé à ce moment-là également ? Est-ce qu'il y avait un courant, disons, de ce type-là ?
Je ne voudrais froisser personne, mais je dirais plutôt non. Disons que non, il y a des militants anarchistes, notamment André Beuziger, dont tu as parlé, va permettre de ressortir le réveil anarchiste qui va connaître une nouvelle édition dans ces années-là. Donc c'est sûr, il y a des militants anarchistes. Ce sont les années aussi de la fondation du Centre international de recherche sur l'anarchisme qui est aujourd'hui à Lausanne mais qui était à l'époque à Genève. Donc ce sont évidemment des gens qui vont être impliqués mais le mouvement ne reprend pas vraiment à ce moment-là, en tout cas pour autant que je sache, il ne renoue pas vraiment avec l'héritage historique à ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'il le fera plus tard, en estimant qu'il a été, je dirais à juste raison, qu'il a été un peu l'initiateur de justement l'ouverture vers des questions beaucoup plus larges qui s'opèrent en mai 68. Quoi. Et en effet, je pense qu'on peut... Enfin, c'est sûr que si on pense par exemple aux préoccupations écologiques d'Élisée Reclus, on voit bien que ce qui émerge à ce moment-là dans la contestation de la modernisation, la contestation d'un avenir radieux, mais technologique et moderne, on voit bien ce que ça doit à ce passé-là. Et donc je pense que les gens ont eu raison les anarchistes ont eu raison de voir cette vague et de se dire un peu à l'intérieur d'eux-mêmes, mais voilà nos intuitions d'il y a 50 ans confirmées.
Absolument.
Ou généralisées.
Tout à fait. On le rappelle, donc le festival, tu as une question, Pierre.
Oui, peut-être deux questions. La première, c'est pourquoi se cantonner à cette époque-là et pas couvrir aussi les 40 années qui suivent jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Et puis deuxième remarque, est-ce que justement maintenant les mouvements de grève entre guillemets, par exemple les marches pour le climat ou ce qui se passe au niveau du DIP, elles sont pas justement en train de passer par la gauche ou la droite des syndicats?
Oui.
Alors, on n'est pas en train de revenir dans un mode finalement où, alors c'est peut-être plus individualiste, c'est une forme d'individualisme qui se retrouve autour d'un thème, ou par exemple, aujourd'hui on a presque honte de prendre l'avion, il y a tout un tas de, c'est pas de la grève, mais c'est des mouvements comme ça, entre guillemets,
assimilés dans le boycott et dans...
Alors, sur la première question, donc de savoir pourquoi on s'est arrêté à cette décennie 69-79, c'est parce qu'il nous semble qu'il y a, dans cette décennie 69-79, une cohérence particulière qu'on perd après, notamment par la disparition des groupes gauchistes. C'est-à-dire qu'à partir de 80-81, il y a un énorme recul de cette coprésence politique ouvrière. Il y a aussi un énorme recul du travail d'usine, ça c'est sûr. Et donc les traits particuliers de la période vont être vraiment modifiés, les traits des conflits aussi, et aussi parce que statistiquement on observe une chute. C'est-à-dire qu'on observe vraiment un pic sur cette décennie et puis une chute. Les derniers à pousser sur des formes grévistes vont être les typos. Tout le secteur des arts graphiques qui a encore de belles grèves en 80-81, mais ensuite ça se tasse un peu pour reprendre en effet avec ce que tu indiques, c'est-à-dire des grèves qui vont se développer dans des zones très surprenantes. Ça va être par exemple la grève des femmes, ça va être par exemple la grève des fonctionnaires qui vont marquer les années 90. Et effectivement, maintenant, on voit ce motif gréviste ressurgir autour de questions climatiques. C'est une question très intéressante de savoir. Il y a cette expression, je crois, qui est de Marx, qui dit « bien joué, vieille taupe ». La vieille taupe étant la révolution, et c'est l'idée qu'elle continue à creuser, et puis de temps en temps, elle fait des apparitions en surface. Et là, on a vraiment, on a un petit peu cette impression de c'est la vieille taupe, quoi, qui, voilà, il y a eu ce mouvement anarcho-syndicaliste dans les années 30, tout d'un coup, hop, ça ressurgit 10 ans entre 60 et 70, ou entre 70 et 80. Et là, ça ressurgit dans des conditions qu'on a du mal à interpréter. Moi, je sais rien dire sur ce qui se passe maintenant. Sauf que, effectivement, c'est assez intéressant de voir que c'est ce mot-là qui est choisi. Ils auraient pu décider, je ne sais pas, d'appeler leur affaire marche du climat. Ce qui a été retenu, c'est qu'on fait la grève pour le climat. C'est-à-dire, il y a quand même cette idée qu'on s'arrête, qu'on arrête quelque chose, qu'il y a un cours normal des choses et puis qu'on l'arrête. Et ça, c'est intéressant si on réfléchit à comment on envisage l'histoire, le déroulement historique des choses. C'est presque un début de révolution. C'est-à-dire que si révolution il devait y avoir, ça passerait certainement par ça, par une sorte d'arrêt, de premier arrêt du déroulement normal de la routine historique. Et après, quel est le rôle des syndicats? C'est difficile de comprendre. Ils sont présents, les gros mouvements qu'on a eus là dans les catégories, enfin disons dans des cadres vraiment professionnels, à la Boya ou à CFF Cargo, aux ateliers CFF Cargo à Bellinzone. C'est des mouvements qui ont été, où les syndicats étaient présents, où ils ont joué des rôles, ils ont joué le rôle de syndicat, disons, qui est aussi de gérer le fonds de grève, etc., qui est aussi de voilà. Les grèves beaucoup plus locales qu'il y a eu à l'aéroport, j'oublie le nom des boîtes, mais
ici à Genève, ouais. Ça m'échappe aussi.
Voilà,
maintenant.
Peu importe. Ces grèves-là, par exemple, elles n'auraient pas connu le retentissement qu'elles ont connu si elles n'avaient pas été appuyées par le syndicat des services publics. Ça, c'est très clair. Donc c'est difficile de savoir. Il y a par exemple une interprétation d'un politologue actuel qui dit il y a un changement dans la composition du personnel syndical qui recrute plus des universitaires, des gens qui sortent avec des diplômes de sciences politiques, ce genre de diplômes-là, et qui du coup vont voir dans l'action gréviste comme une manière, donc qui vont pousser à l'action gréviste. Ça me paraît un petit peu excessif comme interprétation, mais c'est pas inintéressant de se dire bon, mais qu'est-ce qu'on prend dans le caractère spectaculaire? Est-ce que le spectacle de la grève ça suffit? Est-ce qu'on veut juste ça, ou qu'est-ce qu'on va chercher d'autre, quoi? Voilà, mais sur ce qui se passe maintenant, c'est difficile. Il faudrait, disons, donner la parole à des gens qui le vivent en première personne. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne cesse pas. C'est une chose qu'on peut dire et qui paraît intéressante.
www.imageaupluriel-grève-au-pluriel.ch, image de grève 1969-1979, un cycle de projection du 17 septembre au 3 octobre dans différents lieux. Il y aura même une projection en plein air. Ça va se dérouler donc au Spoutnik pour les deux dernières projections, et avant cela, la première le mardi 17 à Fonction Cinéma, et puis ensuite, je sais plus.
Ensuite, c'est sur le site de la CIP des Charmilles, 43 route de Châtelaine, okay. 43 avenue de Châtelaine.
Et donc, on l'a dit à chaque fois, avec des intervenants, que ce soit réalisateurs ou alors on donne la parole aux personnes concernées, et du coup, les personnes sont invitées à venir et à pouvoir à poser des questions, à participer. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. J'aurais envie de dire que peut-être on termine encore avec une ou deux petites questions, et puis ensuite, on se reverra certainement pendant le cycle. Mais est-ce la grève également un lieu de trahison? Alors on sait, qu'est-ce qu'un jaune? On connaît les briseurs de grève, l'histoire nous mène à bien plus loin que ça, on pourrait même parler des agents Pinkerton aux États-Unis à l'époque, qui étaient envoyés pour briser les grèves à un coup de masse. On va pas refaire l'histoire du 1er mai, dont on sait que là également qu'elle est fortement liée, donc ça, ce serait trop long pour aujourd'hui, on reviendra là-dessus, j'espère, une autre fois. Mais tu as cité la Boya, une grève contemporaine. Il y avait eu quand même des moments troubles. Alors qu'en est-il de cette trahison dans la grève ? Est-ce qu'elle existe pour de vrai ? Et que désigne le mot jaune lorsque l'on parle d'un gréviste ?
Jaune, quand on parle d'un gréviste, c'est donc effectivement quelqu'un qui va aller travailler pendant la grève. Il porte différents noms, mais effectivement on parle de jaune, en anglais on parle de scab, je crois qu'il veut dire scarabée ou cafard. En italien il parle de grumiri, ou en français des fois on entend croumir, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, c'est un terme utilisé. Donc effectivement c'est le temps de la grève en fait est assez dramatique au sens d'une proposition presque théâtrale, et je pense que c'est pour ça que ce cycle de films ça a un intérêt de proposer cette question aussi du point de vue cinématographique. En regardant les films, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment qu'on est presque dans une forme tragique classique, quoi, avec les acteurs, chacun jouant
les
son
rôles,
rôle, voilà, pour une dramaturgie, une narration, chaque fois renouvelée, mais chaque fois dramatique pour les acteurs, chaque fois extrêmement impliquante. Et c'est aussi probablement un élément particulier, c'est que les gens sont tout d'un coup confrontés à quelque chose qui n'est pas leur routine de travail. Et dans cette routine de travail, il y a comme une espèce d'éteignoir, comme une espèce de manière d'être mis sous le boisseau, les sentiments, les émotions, etc. Et tout ça, tout d'un coup, peut ressurgir dans ce cadre-là qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert. Et effectivement, ce sont des événements qui provoquent des divisions extraordinaires et durables.
Mmh.
Ceci étant, il ne faut pas minimiser, je pense, le fait que pendant le travail aussi, il y a ces choses-là qui se jouent. Seulement, on ne le sait pas et on ne le filme pas. Je pense que le moment du travail n'est pas si atone qu'on pourrait le penser. Si on lit par exemple L'Établi de Robert Linhart, ou par exemple tous les travaux très intéressants de Michel Pialou sur les usines Peugeot à Sochaux, je vais y arriver.
Les films Medvedkin.
Et les groupes Medvedkin. Mm-hmm. On voit que pendant le travail, il y a aussi toutes ces tensions-là, il y a aussi des ruptures, des divisions, parce qu'un tel faillote, parce qu'un tel prend de l'avance sur la chaîne, donc oui, la trahison, c'est sûr que c'est un des moteurs de cette dramaturgie gréviste. La trahison entre ouvriers, donc il y a ceux qui veulent aller travailler, qu'on va essayer d'empêcher, que le piquet de grève va essayer d'empêcher, et puis il y a la trahison syndicale. Qui est là dans notre période, elle est très fortement mise en scène, notamment dans le film Éléments de grève où Parlons, la machine est arrêtée de Godet, donc qui est sur la grève aux usines Dubié. On voit des images très impressionnante d'une assemblée générale avec André Guelfi, qui est un ponte syndical de la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, et Guelfi arrive comme un boxeur. Il y a vraiment, c'est vraiment une scène de grand théâtre, quoi. Il est acclamé par les ouvriers qui sont réunis en assemblée alors qu'il est en train de les trahir. Donc il leur dit en gros la conjoncture s'arrange, l'emploi est assuré, etc. Ce qui est totalement faux, mais pas clair sur le moment. Et du coup, ces images sont très impressionnantes pour ça, parce qu'il est vraiment en train de réaliser une trahison, la trahison de gens qui sont investis sincèrement, spontanément dans un mouvement qui les effraie, qui leur fait peur, et lui, en conscience, il trahit ces aspirations-là.
Dernière question, si tu le veux bien, avant qu'on se retrouve aux projections, oui. Comme ça on aura le temps également de parler de tout ça. Est-ce qu'on aborde également tous les pourtours de la grève, parce que effectivement tu as nommé tout à l'heure la caisse de grève, mais il y a toute l'organisation qui va avec. Peut-être qu'il y a des enfants à garder, peut-être qu'il y a des situations compliquées à gérer, ce salaire qui ne tombe plus, il va falloir quand même s'alimenter pendant la grève, il va falloir bouger des choses, créer un service de logistique, voilà. Est-ce que tout ça est abordé également?
Oui, et on sent là, je pense, le passage de 68 en ceci que tous ces films montrent, donnent une très large place à ces questions-là de l'organisation concrète, d'effectivement on va prendre les repas ensemble, il faut faire du café, il faut assurer le petit déjeuner, si on occupe il faut assurer l'occupation, et tout ça s'invente dans ces cas-là, donc dans cette décennie-là, tout ça s'invente de façon assez, en tout cas on en a l'impression, de façon assez souple, assez spontanée, je dirais, même s'il faut se méfier de ce terme. Ce qui, on peut le penser, n'était pas le cas, n'aurait pas été le cas 60 ans avant, disons qu'on aurait pu imaginer. C'est peut-être un des effets positifs de l'absence d'encadrement syndical, c'est que les gens se sont organisés, ils ont cherché eux-mêmes les voies de leur organisation qui peut-être leur auraient été suggérées, ou en tout cas disons ils auraient été peut-être dans une position plus passive si l'encadrement syndical avait été plus fort.
Et alors la grève, est-ce que ça reste un outil, une arme efficace au devant de ce monde moderne et de ces déplacements de types de travail qui ont cours avec l'ubérisation de la société, avec l'auto-entrepreneuriat, enfin avec ces nouvelles formes de travail? Est-ce que penses-tu que la grève peut encore être une arme solide, utile et efficace?
Ben, je ne sais pas, mais j'espère.
On va s'arrêter là, ouais, effectivement. Hein, peut-être que ça reste quelque chose à réinventer, ou enfin, on ne sait pas. Mais comme vous l'avez, Pierre, comme tu l'as très bien questionné tout à l'heure, et que Fred l'a relevé, c'est un mot qui est important, en tout cas, dans l'imaginaire collectif, et qui reste présent, en tout cas, chez beaucoup de personnes, et parmi ces personnes, les plus jeunes également.
Bon, moi, j'ai une vision plus globale, peut-être, parce que je ne connais pas le sujet. Mais ce que je constate, en tout cas ces deux dernières années, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a obtenu beaucoup, beaucoup plus qu'imaginé. C'est qu'à Hong Kong, par exemple, la Chine n'a pas encore lancé ses troupes contre les opposants. Donc je vais utiliser un langage que je connais bien, peut-être la rentabilité, en tout cas des mouvements spontanés, elle est assez bonne ces derniers temps.
Bah écoute,
c'est vrai.
Alors voilà, je crois qu'on s'arrête avec ces mots. Merci beaucoup. Donc on l'a dit, le festival, eh bien, c'est tout soudain.
Tout soudain, oui.
Et puis, ben, on vous souhaite plein succès pour tous ces événements-là. Les informations se trouvent sur le site internet. On mettra tout ça, évidemment, au libellé du podcast. Merci Fred et bonne continuation.
Merci de l'accueil.